Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteur, série. L'émission du site de référence de la fantasy francophone.
Bonjour à toutes et tous pour ce podcast Elbakin.net numéro 89 déjà. On est un peu lent au démarrage pour cette rentrée et ce mois de l'imaginaire. Il faut aussi prendre le temps de retrouver ses marques. Et on a pris notre temps pour aborder aujourd'hui la question des one-shots en fantasy ou des romans unitaires. On a commencé à se disputer avant même l'enregistrement sur l'appellation. Et pour discuter de tout ça et commencer d'ailleurs par la définition de qu'est-ce qu'un one-shot, nous sommes évidemment plusieurs autour de la table, à commencer par Saffron.
Bonsoir tout le monde.
Gitanas.
Bonsoir.
Aka.
Salut tout le monde.
Et bien moi, Gilles Hossein, qui suis là avec vous aujourd'hui, Geeks étant absent. Donc on devra se passer de notre maître de cérémonie habituel. Pardon d'avance pour ses fans et pour nos petits soucis éventuels de transition. Et donc sans transition, justement, pour se lancer directement dans le grand bain, comment définiriez-vous un one-shot, et notamment Gitanas?
Si on utilise one-shot ou roman unitaire, normalement, ça devrait frapper l'esprit de tout le monde que c'est un roman qui est tout seul. Mais là où on a déjà eu un débat avant l'enregistrement, c'est tout seul comment et tout seul où. Donc, on n'était pas très sûr de où on allait mettre notre frontière, donc on a décidé d'exclure automatiquement tous les cycles. Donc, dès que ça rentre dans un univers global, ça a été sorti. Donc, c'est un roman qui se suffit à lui-même, hein. Déjà, je pense que c'est une définition qui est suffisante. C'est-à-dire qu'il a un début, un milieu, une fin, et on ne reste pas 10 ans à attendre une suite improbable en espérant qu'elle advienne. Alors, ça peut être très court, ça peut être très long, mais c'est un tout. Disons qu'entre la couverture et la quatrième de couverture, c'est complet. On n'a pas à attendre d'autres choses.
C'est une bonne métaphore.
Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Après, je ne sais pas si mes camarades sont du même avis que moi, mais on peut en débattre.
Donc oui, je pense que déjà, un des premiers points, c'est, comme tu dis, entre la première et la quatrième de couverture, c'est un tout, c'est que c'est un tome, quoi. On exclut tous les romans qui se disent être un roman et pas une série et qui se sont découpés en X tomes. N'en déplaise aux traductions françaises qui redécoupent les tomes. Donc, on exclut automatiquement un certain nombre de livres en fonction de l'éditeur. Mais donc juste un tome et qui peuvent éventuellement être dans un même univers que d'autres livres, mais pas de suite directe, quoi, pas d'implication à part des références ou des choses comme ça. Typiquement, un exemple peut-être un petit peu critique, Elantris va être un one-shot, hein, même s'il fait partie du Cosmere. De Brandon Sanderson.
Donc déjà, on n'est pas d'accord. C'est bien.
Alors, on est là pour ça.
Ce serait trop facile sinon.
C'est vrai.
Ouais, parce que le Cosmere est-il vraiment un même monde, en fait? C'est ça, enfin, parce qu'il y a le Cosmere et d'un autre côté, il y a la Terre du Milieu, tu vois, mais c'est pas la même. C'est vraiment pas le même univers, j'ai envie de dire. Parce que n'en déplaise à Maître Foradan, Le Seigneur des Anneaux, non, ce n'est pas un one-shot. Le Seigneur des Anneaux, c'est la définition de la trilogie. Même si à son corps défendant, Tolkien avait pensé ça comme une unité et que ça a été découpé en 3 tomes parce que l'éditeur estimait à juste raison d'ailleurs, hein, toutes mes excuses, mais que 3000 pages ça faisait un petit peu beaucoup pour un seul et unique roman. Voilà, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas aujourd'hui en 2022, Le Seigneur des Anneaux, c'est pas un one shot, quoi. Donc
À son corps défendant, comme tu dis, c'est un peu devenu le symbole de la trilogie en fantasy, donc c'est sûr.
Ah ouais, c'est pas lui qui a décidé, c'est sûr, hein,
de le considérer comme un one-shot.
Voilà, même si Maître Foradam essaye de vous convaincre du contraire, ne l'écoutez pas.
Ben, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle tout de suite des trilogies parce que quand, à titre personnel, j'ai préparé, on mettait des énormes guillemets, hein, le podcast en cherchant des romans unitaires que je pourrais conseiller aux gens. En fait, quand on tape, par exemple, meilleur roman fantasy ou best-of ou ce qu'on veut, c'est toujours à 90%, 95% des romans qui font partie d'un cycle ou d'une trilogie. Et c'est un petit peu révélateur de notre genre à nous, parce que je pense qu'il n'y a que chez nous qu'on a beaucoup de trilogies, ou de beaucoup logis, ou de ce que vous voulez. Hein. Vous mettez le chiffre que vous voulez. Mais les romans tout seuls, on va dire, d'une traite, sont plutôt rares, ou voire moins mis en avant. Plutôt que rares, je dirais, parce qu'on a quand même pas mal. Mais par exemple, si on prend la science-fiction, on a beaucoup de romans unitaires en science-fiction. Et qui sont mis en avant, etc. Alors qu'en fantasy, bah, on aime bien, oui, le nouveau cycle 2, et puis insérer ici un auteur qui vend du papier. Voilà. Donc il y a aussi un biais, je pense, de notre genre à nous.
Bah, c'est quand même assez révélateur que quand on a préparé, encore une fois, avec tous les guillemets possibles, le plan, c'est que quand on parlait de romans unitaires, les premières choses qui me sont venues à l'esprit, c'est de la SF. Parce que très honnêtement, je n'ai pas l'esprit scientifique du tout capable de suivre une beaucoup logie de SF en 18 tomes qui va m'exposer combien de boulons il y a dans un vaisseau, etc. Donc, je suis une grande fan de fantasy, de SF, pardon, voilà, vous voyez, la Suisse révélateur, de SF à l'ancienne, unitaire. Voilà, moi, tout ce qui est les CIMAC, les Heinlein, les auteurs comme ça, j'ai beaucoup plus tendance, quand on me parle de one shot, à penser SF que penser fantasy. Il a fallu que je fasse le tour de ma bibliothèque, que ce soit en numérique ou en physique, pour dire alors, de quoi on va pouvoir parler? Ah oui, ça, c'est pas mal, effectivement. Et on a quand même réussi à obtenir une liste qui est quand même assez conséquente, mais il a fallu y penser.
Ça s'est pris plus de temps.
Ouais. Non, c'est vrai.
Ben, c'est moi, pour ce que tu dis, parce que je trouve que la SF, à l'ancienne, comme tu dis, finalement, il y a pas mal de cycles, en fait, de sagas, ouais, justement dans les anciens bouquins de SF, et peut-être moins maintenant. Que tu regardes les Asimov, les Van Vogt,
les Jack Vance.
Les Jack Vance, tout ça, c'est beaucoup de sagas. Beaucoup de, peut-être pas des beaucoup logis, mais des petites logis.
Encore une fois, très honnêtement, je suis pas une très calée en SF. Donc c'est pour ça que je peux pas parler des sagas, parce que les sagas, je n'aurais pas la capacité de suivre. De toute façon, il faut je pense très sincèrement qu'il faut un cerveau scientifique pour suivre des sagas de SF, et je ne l'ai pas du tout. Et c'est pour ça vraiment que j'ai fait un focus total sur les one-shots en SF. C'est pour ça que je suis sans doute beaucoup plus capable d'en parler. Mais ouais, c'est...
Quoi qu'il en soit, de toute façon, je pense qu'en effet, notre genre a un ratio... saga sur one shot qui est quand même très largement supérieur à peu près à n'importe quel autre genre.
Commençons pas à faire des courbes. Ça devient trop scientifique même maintenant.
Ouais, mais c'est encore la faute, c'est encore la faute de Tolkien, de sa façon.
Non, mais pour en revenir, c'est vrai, pas forcément à la définition, mais telle qu'on l'entendait, enfin telle que moi je l'entendais moi quand on a parlé de cette idée de podcast, c'est vrai que spontanément, moi j'ai imaginez exclure tout ce qui était roman unitaire, mais dans un même univers, comment dire, des romans comme sur une piste d'athlétisme, des romans qui courent en parallèle chacun dans un couloir, qui font la même course, mais qui pour moi sont quand même, je pensais justement à ce que Gitanas citait, donc évidemment à David Gemmell.
Bien entendu.
Par exemple, voilà, même moi, je ne me serais pas cité pour le coup, avec ce que j'ai pu écrire dans l'univers de... du Coronado chez Critique, parce que pour moi, c'est des romans qui se lisent, qui sont unitaires dans le sens où on n'est pas obligé de lire la suite ou chez Gemmell aussi, mais ça fait quand même partie d'un cycle en somme, quoi. Après, soit on s'arrête à trois, donc ça devient une trilogie indépendante en somme, ou alors chez Gemmell, c'est plutôt à 30 qu'à 3. Mais c'est vrai que moi, j'imaginais vraiment, dans ma tête, j'ai pensé spontanément à des romans dont on parlera plus tard, hein, ceux de Gaiman ou d'autres, qui souvent fonctionnent seuls, vraiment, quoi. Sans amis, comme dirait Gilles Zanas.
Alors, ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le côté. Voilà. Typiquement, pour reprendre l'exemple de tes propres livres, pour moi, ça reste des one-shots. Et si je veux, par
C'est gentil,
exemple,
c'est
parler
gentil.
de Guy Gabriel Kay, dans le même
Oui.
objectif, si on regarde les deux livres, Rivers of Stars et donc le fleuve céleste et les chevaux célestes,
Oui.
Qui se passent à 200 ans l'un après l'autre au même endroit, avec des petits clins d'œil dans le second vers le premier. Pour
Bah,
moi, ça
c'est...
reste des one-shots. T'as pas besoin d'avoir
Ouais.
lu l'autre. Ça apporte un petit peu, mais t'as pas besoin.
Ah non, besoin, non, mais c'est vrai que ces deux-là, par exemple, chez Kay, je les aurais plus ou moins spontanément, dans ma réflexion, bah non, sans réflexion, du coup, spontanément, je les aurais exclus, ces deux-là. Alors que d'autres bouquins de Kay se déroulent dans le même, enfin, sur le même monde, mais vraiment à des lieux si, tout à fait différents, etc. Et pour moi, c'est là où justement je trouve qu'on peut les citer comme one shot, mais ça prouve bien que c'est difficile de se mettre d'accord sur une définition précise.
Je ne sais pas si tu as lu le dernier quai que
Le
je
tout
viens de
dernier, non.
commencer, moi, personnellement. Il parle, il se passe quelques centaines d'années après les lions d'Alrassan, mais il parle quand même de ce qui s'est passé à ce moment-là, sans non plus. Donc, oui, c'est un plus d'avoir lu les
Oui,
lions
voilà, mais ça ne joue
d'Alrassan.
pas sur l'intrigue du roman présent, enfin
Non,
actuel.
ça ne joue pas sur l'intrigue.
Ouais. Ouais. Enfin, Donc, dans
je
ce
pense
cas-là,
que.
ça rallonge de beaucoup la liste des romans. Oui, c'est ça. On se retrouve à faire du name dropping pendant 3 heures.
Ah non, mais on
C'est ça.
gardera que les meilleurs, on parlera que de Guy Gabriel Kay, et puis voilà,
Et de
c'est tout.
David
Ah. Ou
Gemmell.
pas, ou pas. Non.
Attention, parce que là, Ken n'a pas que des supporters dans ce podcast.
Gamel non plus d'ailleurs,
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas grave, il m'a moi, il a besoin de rien d'autre.
La prochaine fois, on fera ce podcast sans Safrone, parce que comme ça, on sera tous d'accord, ce sera beaucoup plus simple.
Non, mais c'est de la discrimination, tout ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord.
Bah, du coup, si pour enchaîner peut-être, puisque sur la définition, je crois qu'on a abordé un peu les différents types de one-shot finalement, tels qu'on peut les considérer.
Et le résumé est que nous ne sommes pas d'accord. Voilà.
C'est ça, mais que plusieurs types de one-shot se distinguent visiblement. Ils ont suivi des branches de l'évolution différentes. Et du coup, bah, qu'est-ce qui nous fait un bon roman unitaire? Pourquoi en lire plutôt que justement se précipiter sur la dernière trilogie en date, à la mode? Je vais laisser la parole à Safrone.
Pardon. J'ai envie de dire réponse ô combien évidente, mais enfin, il faut que l'histoire et l'univers se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que pour moi, pour qu'un one-shot soit bon, il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Je dis ça peut paraître évident présenté comme ça, mais je dis ça suite à ma lecture d'un certain roman, d'un one-shot justement, qui s'appelle Summerland de Anu Rajaniemi, donc qui est paru récemment chez ActuSF.
Oui.
D'après mes recherches, c'est bien one-shot, mais pendant toute ma lecture, je me suis demandé pourquoi je comprenais à peine la moitié de ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il me manquait des clés de compréhension. J'avais le sentiment de lire le genre de préquel qui doit impérativement être lu après les 3 ou 5 ou 8 ou 10 tomes de la série principale si on veut comprendre quelque chose. C'est-à-dire que je me suis dit tout du long qu'il était impossible de concevoir un monde et un scénario aussi brouillon et que cette histoire devait faire office de prologue à une série que je n'avais pas lue. Mais non, c'est-à-dire que j'ai vraiment creusé, mais quand je dis pendant une bonne heure, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que j'ai cherché toutes les informations possibles et imaginables sur l'auteur et sur le livre, mais non, en fait, c'était vraiment, vraiment un one-shot. C'est juste pile poil le modèle de ce qu'il faut absolument pas faire en one-shot. Pour moi, l'intérêt du roman unitaire, c'est le même que celui du trou normand, si vous voulez, hein, de toutes mes excuses aux Normands qui vont écouter ce podcast, mais. Ça évite l'indigestion, en fait. C'est-à-dire, je lis des one-shots parce que j'ai besoin d'un truc un peu frais et léger qui ne me demande pas des années d'investissement au milieu de toutes ces séries à rallonge, en fait, dont regorge la fantasy. Il n'y a pas besoin, normalement, d'une série en 14 tomes pour créer un univers crédible avec des personnages attachants. C'est-à-dire que, normalement, 300 ou 400 pages, ça peut largement suffire si c'est bien fait. Et il y a aussi un côté de nouveauté, c'est-à-dire de temps en temps, ça fait quand même du bien de découvrir un monde qu'on ne connaît pas encore et qui va nous occuper juste le temps d'un roman. Voilà, trou normand, encore une fois, ça évite de se lasser d'un univers. Et après le one-shot, on revient au tome suivant de la saga qu'on a entamée avec une nouvelle motivation, quoi.
Alors, moi, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait, je ne suis pas d'accord sur un sens. Hein, c'est que tu considères le one-shot au milieu d'une lecture de cycle. Donc, ta lecture principale, c'est le cycle. Ton plat de résistance, c'est le cycle. Mais tu vas avoir besoin d'un petit digestif de temps en temps, quoi. Je trouve ça un peu réducteur, finalement, pour le one-shot. Pour moi, ça peut très bien être le plot principal. Et tu peux enchaîner les one-shots sans avoir besoin absolument d'aller vers un cycle. C'est juste que ça offre quelque chose de différent. Ça va être un autre pas qui va être moins long, mais qui va peut-être t'emmener vers quelque chose de plus intense sur un moment, et non pas de t'emmener dans un environnement confortable parce que tu le connais, tu le découvres. Pour moi, c'est vraiment deux choses très différentes, en fait, et ce n'est pas le objectif dans l'écriture, dans la lecture. Donc, voilà, pour moi, c'est deux types de plats différents, et ce n'est pas un plat de résistance et un digestif. Pour développer un peu ce que je disais, on avait fait un podcast, je ne sais plus quel est le numéro, sur la nouvelle. Et ce que
Normalement,
j'avais dit
trois.
à l'époque, et ce que je continue à penser, c'est que ce qui est bien dans une nouvelle, c'est que c'est la possibilité d'avoir une bonne idée et pas besoin de broder autour, de construire un univers, de construire des personnages, etc. Dans une nouvelle, on a besoin d'un personnage ou de quelques personnages, d'une bonne idée pour les faire interagir. Et voilà, on a quelque chose de percutant et on s'arrête là. La saga, ben, l'objectif, c'est de t'emmener, de te faire voyager dans un univers nouveau que tu connais pas, que tu vas découvrir, que tu vas apprécier. C'est le côté, c'est un peu l'aventure quand on se lance dans une grande saga. On va découvrir quelque chose qu'on connaît pas. Et on va y passer le temps, on va profiter, on va, voilà, prendre le temps. Et le one shot, c'est entre les deux. On a une ou plusieurs bonnes idées. Et on a envie de développer des caractères, des personnages, toute une série de personnages. Ça va être plus fouillé, qu'il y aura plus de personnages que dans une nouvelle. Il y en aura moins que dans une grande saga. Et surtout, il n'y a pas la même construction de l'univers qui va être, du coup, plus focalisée. On ne va pas parcourir des continents et des continents. On va rester une certaine unité de lieu, alors qu'il peut être de l'ordre du pays ou un peu plus, mais on est en fantasy, du coup ça se bastonne souvent un petit peu. Du coup, il y a souvent plusieurs pays ou plusieurs régions qui se tapent dessus. Mais voilà, on va pas découvrir tout l'univers, et ça va laisser des places à l'imagination. Je trouve que quelque part, il y a eu très récemment une discussion sur le forum sur le. Un peu l'intérêt de la série, et en particulier par rapport au film, la série télé. C'était Merwin qui défendait un petit peu la construction de Rings of Power, où il disait que ben oui, ça prend son temps, il y a des trucs qui sont un peu longs, il y a des passages un peu lents, etc. Il y a des passages. Alors je ne fais que paraphraser Merwin, parce que je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il disait, mais il disait que voilà, justement, la série, ça te permet de rentrer, de pouvoir prendre le temps de regarder l'univers sans aller directement à l'action. Voilà, le film, c'est le one shot, la série, c'est la grande saga, et puis la novella, c'est le court-métrage. La nouvelle, c'est le court-métrage.
C'est une comparaison entre ces deux médias qui fonctionnent, même si je pense que, enfin, on sera tous d'accord là-dessus, hein, même toi, Aka, mais après, il y a des one-shots où je pense qu'on peut rentrer très vite dans un univers. Enfin, moi, je pense à, je sais pas, Neverwhere de Gaiman, par exemple. T'as l'impression qu'il y a tout un monde qui s'ouvre, ben, comme au héros d'ailleurs, et ça pourrait durer, enfin, ça pourrait s'étendre sur beaucoup plus de pages pour le coup. Même si ça reste dans une seule unité de lieu, mais enfin, tu visites tellement d'endroits que dans la même ville que finalement c'est encore différent. C'est marrant parce que pour le petit aparté pour le débat récent sur le forum, je crois que tu parlais de peut-être que est-ce que les traducteurs sont encore utiles? Est-ce que ça ferait pas gagner de l'argent aux éditeurs de se passer de traducteurs? Mais bon,
Commençons pas
c'est
cette discussion par pitié.
ouais, non, c'est un autre
Il y a
débat.
deux traducteurs autour de cette table, c'est pas une bonne idée.
Non, non, effectivement.
Moi, je lis qu'en anglais, de toute façon.
Le salaud. Pour rebondir juste une seconde sur vos remarques respectives, moi je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas sentir de manque, sur le fait que si les pages d'un roman unitaire recèlent trop de non-dits, de pistes non développées, etc., bah, c'est sûr qu'on peut se dire effectivement que ça peut ressembler à l'après-quel d'un cycle qu'on n'aurait pas lu ou au tome 1 d'une saga en 12 tomes et que, bah, une fois arrivé à la fin, on est frustré. Donc, effectivement, s'il y a un sentiment de frustration à la fin du roman, c'est que le one-shot n'a peut-être pas rempli son office, en tout cas pleinement, justement. Là-dessus, je vous rejoins tous les deux. D'autres remarques sur ce qui fait un bon one-shot et pourquoi on a envie d'en lire ?
Moi, je pense que je rejoindrai plus Safron dans l'idée de faire une pause entre deux tomes d'un cycle. Parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, les one-shots, j'aime pas ça.
C'est lui, c'est lui.
Le pavé dans la mare.
Voilà.
Le one-shot dans la mare. Lui.
Alors, pourquoi ? Pourquoi je n'aime pas ça ? Parce que la plupart du temps, même si le livre est bon, et j'en ai des bons à vous conseiller, hein, il y a un sentiment de frustration. C'est-à-dire, quand on lit un cycle et qu'on l'aime bien et qu'on le trouve bon, on peut être le seul de l'univers à le trouver bon, c'est pas important, les goûts sont propres à chacun, on est content de le lire. Bon, voilà, il y a un plaisir de lecture, etc. Et c'est chouette, on passe un chouette moment. La frustration dans un cycle peut venir du fait que on ne trouve plus de plaisir au fur et à mesure de la lecture. Dans un one-shot, si c'est très bon et qu'à la fin ça se termine, on fait « Ah mais ouais, mais moi je veux encore ma dose parce que je suis un junkie » et il n'y a plus rien. Donc ça peut aussi, je pense, enfin j'espère pas être tout seul parce que sinon je vais devoir consulter, créer une barrière directement avant la lecture en se disant « Bah ouais, mais hein, si c'est pas bien, au contraire, si c'est trop bien, qu'est-ce que… » je vais avoir peur de manquer, quoi. Donc, c'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai tendance plutôt à éviter ce genre de bouquins. Et je les lis que quand Emmanuel me les donne à lire pour le site. Parce que sinon, c'est pas vers la littérature vers laquelle je vais me tourner. De peur, justement, de tomber sur des choses trop bien. Et...
T'es la seule personne que je connaisse qui n'aime pas lire manqué. Un bouquin de peur de trouver ça trop bien. Quoi.
Oui, alors après, il faut savoir que c'est aussi à moi qu'on donne à lire les purges et ce genre de trucs. Hein, donc, j'ai un rapport à la littérature qui est peut-être un peu décalé.
Pas uniquement. Hein.
Pas uniquement, c'est vrai. Mais je suis toujours volontaire pour les choses un peu.
Ah, bah c'est différent, tu vois.
Et il n'y a pas que dans la littérature où j'agis comme ça, mais le fait de me dire ça, tout le monde en parle, ça a l'air trop bien, j'ai pas envie de le lire parce que je me dis si je le lis et que je trouve ça trop bien, après j'aurais plus le plaisir de la découverte ou la porte va se fermer d'un coup sur mon nez et je vais faire ah bah ouais, mais non, j'en veux encore et il y en aura plus.
Tu préfères rester au stade du fantasme, quoi.
Exactement.
Mais après, même si c'est, même s'il n'y a pas d'autres tomes dans l'univers que tu viens de découvrir, peut-être que l'autrice ou l'auteur n'en est pas à son premier roman et que dans ce cas-là, tu as peut-être aussi accroché à son style, à ses thèmes, à son écriture et que du coup, tu peux, même si c'est plus la même histoire, tu pourrais découvrir quand même ses autres ouvrages, non ? Ou ça marche pas ?
Ben, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, à titre personnel, le style de l'auteur, je m'en fous. Hein.
Ah bon.
Ouais, là,
deuxième pavé dans la mare.
Je veux dire, après, encore une fois, il faut partir du principe que j'ai l'impression que ça parle de moi, mais c'est pas le propos. Que c'est un cas à part parce que je suis en partie prof de lettres par ma fonction de PLP et je chronique pas mal de trucs très différents pour le site. Donc j'ai je me focalise pas sur un auteur comme une certaine personne ici présente que je ne citerai pas avec un certain auteur nord-américain, mais
pas de quoi tu veux parler.
Pas du tout. On l'a cité que deux fois ce pauvre Guy Garrielke, bon, trois maintenant, mais
trois. Voilà.
Donc en fait c'est pas trop tant le style de l'auteur qui est important. Je pense que c'est surtout l'univers et le fait de le cloisonner dans un roman tout seul, plus ou moins épais. Ça peut créer de la frustration en fait avant en se disant bah ouais mais tout le monde en parle c'est le truc à lire ou voir après en mode bah on a refermé la dernière page et on se dit ah mais c'était trop bien j'en veux encore et si l'auteur joue vraiment le jeu bah il n'y en aura plus quoi
et, voilà. C'est pour ça qu'il faut lire Guy Garrielke parce qu'ils sont tous dans le même univers
et ils sont tous très bien
ils sont tous très bien
Alors, agree to disagree, hein, à propos de. Ils sont tous très bien chez Guillermo del Toro. J'en ai lu quatre, j'en ai pas aimé un. Bref.
Oui, mais, toi, t'es grumpy cat, toi.
Mais non, je suis pas grumpy cat. Non, je crois qu'on a de toute façon des affinités avec un auteur où on n'en a pas assez. Après, tu dis effectivement, toi, t'es pas sensible au style d'un auteur. Moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est typiquement ça, effectivement. Alors, il y a des exceptions, mais par exemple, des auteurs comme Graham Joyce ou Joe Walton, qui font principalement dans le roman indépendant, je sais que quand j'en finis un, même si cet univers-là en soi est fini, il reste le reste de la bibliographie de l'auteur à lire. Et ça reste, quelque part, j'ai l'impression d'être toujours immergée dans le même monde, même si ce n'est pas les mêmes personnages du tout, même si ça n'a rien à voir, même si c'est une histoire totalement indépendante. Il y a ce style qui fait que j'ai l'impression quand même de rester dedans. Et c'est vraiment les deux auteurs où ça me fait ça, où ça me fait cette espèce de tilt immédiat. C'est Joe Walton et Graham Joyce, où les romans sont indépendants, pour la plupart. Encore une fois, Joe Walton a écrit la série Farthing, effectivement, dans sa bibliographie, c'est le seul truc auquel je n'ai pas adhéré, donc comme ça, c'est clair. Mais tu peux quand même trouver cette patte, cette marque, cette espèce d'univers. Même si ce n'est pas le même monde, ce n'est pas grave. Quelque part, tu sens que c'est l'auteur derrière. Et effectivement, oui, si t'es pas sensible au style d'un auteur, ça compte. Ça, on est bien d'accord. Mais par exemple, si t'as aimé Morwenna de Joe Walton, mais prends sa bibliographie, sa discographie, voilà, on sent les... tu prends sa bibliographie et tu prends n'importe quoi et je suis à peu près sûre que ça marche. Vraiment. Et Graham Joyce, c'est, en tout cas pour moi, après, pour le, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour moi, c'est la même chose. Les romans de Graham Joyce, pour moi, ils sont tous à un niveau pratiquement équivalent, quoi. Comme si c'était une série, mais non.
Après, là, c'est deux conceptions différentes. Pourra-t-on les réconcilier dans ce numéro? Je ne sais pas. ça me semble quand même deux approches.
Pour le coup, diamétralement opposées, oui, ça, c'est...
Oui, bah, c'est clair. Mais bon, les deux, moi, bon, je pencherais plus de ton côté, Safran, mais c'est vrai que je comprends aussi ce que veut dire Gilles Tanas. Donc, voilà, comme ça, tout le monde est, on distribue les 10 sur 10. Pas de mauvais points dans ce podcast. Et du coup, oui, bah, voilà, justement, si, pour enchaîner, si les one-shots, les romans unitaires, les romans indépendants, appelons-les comme on veut, sont si bons et si c'est si intéressant de découvrir ce genre de publication, bah pourquoi ne pas souhaiter de suite? Parce que là, on en revient justement un peu à ça, c'est justement ce qui est des suites qui pourraient combler Gilles Tanas.
Mais écoute, j'ai envie de dire, si l'histoire marche parfaitement en un seul tome, même si le dit tome est particulièrement bon, pourquoi aurait-on besoin d'une suite? C'est-à-dire, si la suite n'est pas aussi bonne, ce sera source de déception, qui pourra potentiellement ternir l'éclat du premier tome avec des guillemets. Donc là encore, bah, tout à l'heure, j'ai parlé de Summerland pour illustrer mon propos, et là, je vais donner des exemples aussi. J'ai adoré, absolument, j'ai trouvé ça particulièrement génial, Feuillet de cuivre de Fabien Clavel, et j'ai trouvé la suite, avec tous les guillemets du monde, Les héritiers, parfaitement nulle. Voilà, c'est très simple. Même chose pour L'Empire électrique et sa pseudo-suite, donc L'homme électrique de Victor Fleury. C'est, non. Ces romans avaient mis une espèce de standard extrêmement élevé que la suite, mais au-delà de même pas été capable d'atteindre, c'est-à-dire elle n'arrivait pas à la cheville, en fait, à mes yeux. C'était une catastrophe et une vraie, vraie déception. Et ces romans auraient aussi bien fait pour moi de rester... De rester des one-shots. Et du coup, pardon, encore une fois, pour l'exemple SF, parce que j'en parlais dans l'intro, mais je fais partie des hérétiques, c'est le cas de le dire, puisque ça, c'est quand même le titre d'un tome, qui pense que Dune n'aurait dû comporter qu'un tome. Donc Dune, voilà. Dune, le tome 1, est absolument excellent. Et la suite, pour moi, bah, c'est pas exactement un modèle de logique, que ce soit scientifique ou narrative. Là, actuellement, j'en suis arrivée au tome 3, Les enfants de Dune, et j'ai le 4, La maison des mères, dans ma palle, mais je ne sais pas si j'achèterai les tomes suivants dans la belle édition brochée Robert Laffont, là, parce que plus j'avance et plus je me dis que ça devient capillotracté et pas vraiment cohérent, quoi. Donc,
T'as pas fini, attends la fin.
Ben justement, je dis, je suis pas sûr, je suis pas sûr d'arriver à la fin. En fait, c'est ça.
Les tout
Je vais
derniers
m'arrêter au
tomes.
4, je pense. Je pense que je vais vraiment m'arrêter au 4. Et ben, typiquement, c'est ces exemples-là qui me font dire que j'ai aucune envie de voir des one-shots géniaux se transformer en potentielles séries médiocres, quoi. Tout
Donc tu
simplement.
dis toi-même que les one shots sont des vecteurs de frustration, c'est voilà, faut pas en lire.
Non, je suis pas d'accord. Les one shots avec une suite nulle, les one shots, allez, non, on va dire les bouquins qui auraient totalement pu être indépendants et auxquels l'auteur a donné une suite, que ce soit pour des raisons strictement artistiques, dirons-nous, soit pour des raisons bassement financières, etc., parce que le premier tome s'est
Mercantile,
bien vendu,
disons-le.
voilà, mercantile, exactement, merci, parce que le premier tome s'est bien vendu. En soi, c'est pas une source de frustration. C'est quand la suite est nulle que ça me frustre. Voilà, je suis beaucoup plus frustrée par les exemples que j'ai donnés de Fabien Clavel, pardon, et de Victor Fleury que par un excellent roman de Jo Walton. Jo Walton, elle ne me frustre pas. À côté de ça, j'ai été hyper contrariée par le Fleury, quoi.
Après, c'est peut-être un peu comme si tu adores le millefeuille et que tu manges un millefeuille. Peut-être que en manger deux,
Ça fait beaucoup.
c'est trop, quoi. Même si c'est très bon. Alors, si en plus le millefeuille, il a un peu traîné dans la vitrine de la pâtisserie, ça.
C'est ça, tu reviens 2 heures et tu prends le deuxième.
Ah ouais, il est plus bon, quoi. Enfin, c'est voilà. Et puis, ah, oh, j'ai fait des millefeuilles parce que les premiers
Parce que les premiers se sont bien
c'est bien
vendus,
vendu,
alors.
quoi. C'est ça, ouais. Je vais en faire une autre série. Bah oui, mais plus
Du coup,
personne
j'en
ne
ai
lâche
fait,
les
mais
biscuits, là.
avec la farine que j'ai utilisée il y a 3 mois pour les premiers.
Ouais, bah non.
Ben, on est
Voilà,
d'accord.
voilà.
C'est ça. Pour aller plus vite, je vais faire une pâte sablée à la place de la pâte feuilletée.
Yerk.
Ah oui, on peut aller loin.
On peut
Mais
pousser, on peut filer la métaphore très loin comme ça.
Ah ben, sur le plan culinaire. Hein.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quand même quelques points que je voudrais soulever. Déjà, c'est que c'est pas parce qu'il y a une suite, c'est qu'on est obligé de la lire. C'est
Ah, c'est
juste,
sûr.
ça m'a fait penser à ça, mais moi, j'ai 2 exemples de livres où il y a une suite et j'ai pas eu envie de lire la suite. Le premier, et pourtant, à ce qui paraît, la suite est très bien, mais c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai lu que le premier cycle et j'ai trouvé la fin tellement bien que j'ai pas envie de lire une suite. J'ai pas envie que ce soit plus une fin. Et vraiment, ouais, il y a ce côté aussi de rajouter quelque chose. Alors peut-être que la fin, que la suite est très bien, mais à la base, ça n'a pas été pensé comme ça. Alors en tout cas, je pense pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, moi, je l'ai pas pensé comme ça. Je suis arrivé à la fin d'un cycle. La fin était parfaite. Donner une suite à quelque chose qui a une fin parfaite, hein, c'est remettre en question cette fin. Et ça, c'est un côté un peu triste. Pour moi, vraiment, un bon one shot, c'est justement s'il ne nécessite pas de suite. Si oui, il y a peut-être une certaine frustration d'envie d'encore, mais il ne faut pas que ce soit une frustration de vouloir en avoir plus, d'avoir des questions en suspens ou des choses comme ça. Il peut y rester des questions en suspens si elles sont voulues, mais il ne faut pas qu'il y ait des portes ouvertes qui n'ont pas été fermées, des choses comme ça. Par contre, bien sûr, il peut y avoir une frustration d'avoir envie de continuer à avoir un personnage, etc. Mais il faut que le one shot se suffise à lui-même et qu'il n'y ait pas autre chose. Une suite à un one shot, c'est par nature artificielle puisque c'est pas pensé à la base comme une suite. Moi, je vais repartir dans mes parallèles télévisés. Il y a plein de séries qui ont une première saison qui est absolument géniale. Mais la série est pensée comme étant une saison, puis ils en ont fait 4 saisons derrière. Donc, je pense, par exemple, je sais pas moi, à Prison Break ou à d'autres comme ça, où finalement le pitch tient sur une saison. À la fin, il sort de la prison. Spoil, désolé.
Ah non.
Mince, attends.
Et voilà, c'est fini. Il n'y a pas besoin de rajouter 4 saisons derrière. Et du coup, on gâche quelque part cette fin qui est bien, qui est, voilà, cette saison qui se tenait et qui n'avait pas besoin d'en avoir plus, pour, bah, comme tu disais, probablement des questions bassement matérielles.
Si on prend l'exemple du Prison Break, c'est une évidence. Ça a tellement cartonné
Voilà.
qu'ils se sont dit, ouais, on va continuer l'histoire, comme ça les gens qui ont passé des heures à regarder la saison 1, ils vont regarder la saison 2. Bah oui, mais enfin, oui, enfin, clairement, vous avez tiré sur une corde qui
C'est-à-dire
ça n'avait
que
pas d'intérêt, quoi.
forcément,
Et
ouais.
en fait, ouais, j'irais même jusqu'à dire que une suite à un one shot, c'est pas forcément une mauvaise, c'est pas forcément quelque chose de pas bon. Il y a des exemples comme ça de one shot avec des suites qui se tiennent très bien. Mais ce que je reproche de toute façon à une suite d'un one shot, c'est que cette suite ne vient pas servir ce qui a été écrit avant. Parce que le one shot a été fait d'une certaine façon. Et donc, on peut rajouter quelque chose. Alors, ça peut être bien, mais ça va être une couche par-dessus ce qu'on a construit avant. Ça
C'est
va pas être quelque
du
chose qui va
glaçage.
renforcer le premier récit. Et ça, finalement, ça a toujours quelque chose d'un petit peu artificiel.
Après, ouais, enfin, je sais qu'on a vaguement essayé de s'arrêter sur une définition au début du podcast, mais j'ai presque envie de demander l'avis de. Enfin, c'est parce que j'ai presque, hein, j'ai carrément envie de demander l'avis de quelqu'un qu'on a écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse potentiellement à écrire une suite dans un même univers, même si les romans sont indépendants? Que le premier tome aurait pu totalement se suffire à lui-même. Là, je parle évidemment de l'Empire du Léopard et la piste des cendres. L'Empire du Léopard aurait pu rester tout seul. Est-ce que, enfin voilà, la question c'est qu'est-ce qui pousse? On va dire hein, que ce ne sont pas de vils considérations mercantiles, n'est-ce pas, qui ont poussé
Non.
à écrire la piste des cendres. Voilà,
J'aimerais bien,
qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce
mais.
qui pousse derrière à vouloir creuser un one shot, au fond?
Bah
Monsieur Emmanuel Chastelier, répondez à la question, s'il vous plaît.
dans mon cas, je pense que c'est vraiment l'envie. On en parlait au début en tout cas, on en parlait comme notion en général reliée au cycle, donc les univers, et l'envie d'explorer un univers plus en profondeur ou plus en longueur, voilà. Moi, c'est avant tout ça parce que j'avais l'impression, effectivement, que l'Empire peut se tenir tout seul. Surtout que j'aime beaucoup sa fin, l'épilogue. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que l'univers pouvait contenir plus d'une seule histoire, on va dire. Et j'avais envie de revenir à ce cadre que j'avais inventé en écrivant l'Empire. Je repensais justement à ce que disait Aka sur Hobbes, mais j'imagine que elle aussi, sans comparaison aucune, bien sûr, mais en cours d'écriture, même si au départ t'as pas prévu de faire une suite à ton cycle, bah tu peux avoir de nouvelles idées malgré tout qui surgissent ou simplement l'envie. Alors moi, elle, je pense que c'est aussi l'envie de suivre ses personnages sur la durée, parce qu'elle s'y est attachée, qu'on traverse finalement une bonne partie de toute leur vie. Là, moi, je change complètement de casting, mais ça c'était aussi. Là, pour le coup, c'était une considération matérielle, hein, puisque le deal était clair avec Critique, il fallait que justement les deux romans soient indépendants et que se passe priver des gens qui ne connaîtraient pas l'Empire, hein, et pouvoir s'adresser à tout le monde. Donc c'était la condition bassement stratégique. Mais oui, moi c'est vraiment l'envie d'explorer davantage cet univers. C'est ce qui fait aussi que j'ai envie d'y revenir une troisième fois, parce que j'avais l'impression qu'il avait le potentiel de contenir plus qu'une seule histoire, tout comme des one-shots que j'adore pourraient, à mon avis, si l'auteur ou l'autrice avait l'envie ou la bonne idée, enfin, ou le jugeait viable, de quoi abriter d'autres histoires, hein. Donc, moi, c'était vraiment ça, c'était continuer à explorer ce monde.
Moi, j'ai une question du coup, quoi. Moi, personnellement, je considère que tes deux romans sont des one-shots. Justement parce que, pour moi, ils sont indépendants. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que la piste des cendres aurait été très différente si il avait été dans un autre univers? En fait, tu pourrais prendre les mêmes, exactement le même truc, tu changes tous les noms. À chaque fois que tu parles de nouveau
Oui.
Coronado, tu mets un autre nom. Et en fait, j'ai l'impression que ça se tiendrait. Alors, en fait, il y a ce côté qui est sympa de retourner dans un univers qu'on connaît et d'en découvrir plus. Mais quelque part, ça aurait pu être, j'ai l'impression, un nou nouvel univers que tu aurais. Alors, peut-être du coup, dû passer quelques pages en plus pour
Oui, c'est
le resituer, parce que
bah,
du coup, ça t'a fait gagner un petit peu
ce que
ça.
j'allais dire. Ouais. Je pense qu'il y a.
Mais finalement, j'ai l'impression que tu vois, ils sont suffisamment indépendants En tant que lecteur qui a lu les deux, moi, j'apprécie de revenir dans cet univers parce que c'est un cadre que j'ai, comme tu dis, tu as envie d'en découvrir plus de l'univers, mais les romans sont indépendants. Et je reprends ma comparaison préférée avec Guy Gabriel Kay, c'est pareil. On a beaucoup de one-shots qui se passent dans le même univers où il y a juste des petits clins d'œil les uns aux autres. Alors, les religions, les noms
Oui, bah
des
c'est plus
pays,
comme ça que je
etc.
le vois, effectivement, dans le sens où, oui, sûrement que à quelques détails près, l'histoire en elle-même, bah, l'histoire s'appuie pas, se sert pas de l'empire comme béquille. Donc à partir de là, la piste aurait très bien pu, effectivement, être un premier tome, puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas lu l'empire, qui ont commencé directement, enfin, qui ont lu la piste en premier. Donc voilà. Oui, après, effectivement, moi, en ayant déjà l'Empire derrière, j'avais plus de bases et de choses à piocher parce que tout était déjà en place, en fait. Mais ça, c'est plus pour moi que pour le lecteur, sûrement. Donc,
Disons que tu l'as quand même écrit de façon à ce que le lecteur puisse s'en passer.
ah bah oui,
Et
bah
du
oui.
coup, même si
Et
ça
comme tu dis,
apporte quelque chose
il y a des
d'avoir lu
clins
ce qu'il y
d'œil.
avait avant, c'est pas un indispensable, quoi.
Non, c'est pas un indispensable, mais clairement, je pense que quelqu'un qui a lu l'Empire appréciera plus l'épilogue de la piste que quelqu'un qui n'a pas lu l'Empire. Voilà.
Je dois t'avouer que c'est pour moi le seul point qui fait qu'il y a vraiment.
Oui, ah bah c'est peu. Et encore, bon, j'ai dû batailler pour maintenir cet épilogue, mais j'y tenais. Donc c'était là pour le lien, mais effectivement, oui, l'idée c'est que les deux soient sur, ce soit chacun une jambe et puissent avancer. En parallèle, quoi, comme je disais, limite dans des couloirs différents. Non, parce que si c'est des couloirs différents, c'est disqualification. Si c'est le même corps, mais bon, vous m'avez compris.
À partir du moment où de toute façon il y a un saut temporel, c'est quand même beaucoup plus facile de faire la distinction one shot
Oui.
plutôt que suite à proprement parler.
Bah, chez Kay aussi, hein, c'est
C'est
des sauts temporels, justement.
oui, ouais.
Et ou géographique en plus.
Oui, en plus, géographique, oui. Mais pour ce qui est du temporel, ouais, c'est clair
Ouais.
qu'il est présent. Mais après, sur le reste, pour rebondir sur ce que tu disais, Aka, moi, c'est vrai que je suis partisan du « il n'y a que trois Indiana Jones », « il n'y a qu'un seul Highlander ». Donc,
On est d'accord.
je comprends tout à fait.
Ouais, mais d'un autre côté, à partir du moment où le premier tome a été bon, l'être humain est ainsi fait que c'est difficile de
Oui.
se modérer, quoi. C'est ah
Non,
bah
non, bah,
le
c'est...
premier a été vraiment génial. Je vois pas
Ça y est,
pourquoi
tu
j'irais
parles déjà de
voir.
premier. Non,
Oui,
le
bah oui,
tome a
non
été
mais
bon.
oui, voilà, le tome qui se passe dans le même univers, que ce
La
soit 3 ans
corruption
ou
du
trois
cycle.
cents ans avant, a été suffisamment bon pour que j'ai envie de jeter un œil à ce qui se passe dans la suite. Moi, voilà, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, pardon, on va croire que j'essaye absolument de bâcher le pauvre Victor Fleury. Non, absolument pas l'objectif, mais quand on dit c'est dans le même univers que l'Empire électrique, génial, j'ai adoré l'Empire électrique. Qu'est-ce qui peut mal se passer avec l'homme électrique? Ah bah tout. Voilà, je pense que l'être humain est ainsi fait qu'on a envie de continuer la suite. Et je trouve ça admirable à la limite de ne pas avoir voulu lire la suite de l'Assassin Royal tout en ayant aimé la première série. Parce que moi, mon réflexe, c'est j'ai adoré la première série, lisons absolument la suite. Quand Philippe Auribeau a sorti, on ne parle plus de one shot, là on parle carrément de suite de série, mais quand Philippe Auribeau a sorti la suite des Lames du Cardinal de Pierre Pével, je dis, mais c'était shut up and take my money, quoi. J'ai même pas besoin d'un synopsis, j'ai absolument besoin de rien, je vais les acheter. Donc non seulement j'ai acheté les épisodes quand ils sont sortis en mode feuilleton chez Snark, chez Bragelonne. Donc Snark, c'est le truc feuilletonnant la sous-édition feuilletonnante de Bragelonne, et je l'ai racheté quand il est sorti en version poche. Voilà, c'est parce que je savais que j'adorais tellement cet univers qu'il n'y avait même pas moyen, même pas en rêve, je le loupais, même si, effectivement, je trouve que la fin des Lames du Cardinal est parfaitement satisfaisante. Et du coup, c'est d'autant plus facile quand tu n'as eu qu'un tome, qu'un one-shot au lieu des trois tomes des Lames du Cardinal, de se dire, oh, il y a un truc qui se passe dans le même univers qui peut potentiellement être une suite, bah, j'y vais, quoi. Donc, ouais, bah, je trouve vraiment admirable que t'aies la capacité de résister à la tentation, en fait. Moi, je peux résister à tout sauf à la tentation, hein, comme disait Oscar Wilde. Voilà, moi, ça marche.
Cette phrase que tout le monde connaît.
Oui, voilà. Oui, mais de temps en temps, c'est approprié.
Non, mais j'allais dire avec,
avec
l'île de la tentation.
Ah, pardon. Ouais, non, ça, j'ai pas. Excusez-moi.
C'était leur phrase d'intro, une mission légendaire du PAF, comme on dit.
Excusez-moi, je suis resté à Oscar Wilde et pas à l'île de la tentation. Pardon.
Bah, c'est ça. Bah, c'est pas les mêmes discussions, ni le même niveau de dialogue. Et du coup, est-ce qu'on a fait le tour de, est-ce qu'il faut donner une suite en somme au one shot ou est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Parce que moi, j'allais dire, hein, j'allais faire mon jeu de mots pourris sur Oribo. Oribo, c'est beau la vie, mais c'est... <C'était>,
Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir cesser, monsieur.
C'est ça. Voilà. Bah, peut-être que si j'avais plus de bonbons hein, sous la main, plus de sucre, j'aurais un cerveau qui fonctionne mieux. Mais ça.
Ouais, mais c'est le drame de faire.
Mais
ces...
on aurait peut-être moins de
à distance maintenant. Hein.
C'est ça. Ouais, non, c'est ça. Quand on se voyait en vrai, on avait des trucs à manger, des trucs à boire, mais là, on est obligé
de faire
notre truc nous-mêmes, quoi.
Non, mais le monde d'avant.
C'est ça.
Du coup, est-ce qu'on enchaîne sur nos recommandations? Alors, qui commence là aussi? Qui veut la parole?
Vas-y, je vais la prendre parce que.
Vas-y. On va pas te la donner, c'est ça. Donc, tu la prends.
Non, mais j'aime bien vous écouter parler. C'est très intéressant, je trouve.
Non, c'est pas ce que tu fais en plus. Pour nos éditeurs,
il est en train de il est en train de peindre ses figurines. Il est en train de peindre
coller,
ses figurines, je suis sûr.
De coller.
Ah, voilà. Ah, un petit droïde.
Voilà, un reçu. Au cas où vous l'auriez encore pas compris ou vous prenez ce podcast à la volée, c'est pas le genre de choses que je lis d'habitude. Donc, j'en ai pas énormément à conseiller. Je crois même qu'il y en a que je conseille qui font doublon avec mes camarades. Donc, voilà.
C'est pas grave, nous, on en a plein.
J'avais mis du David Gemmell, donc comme on m'a outreusement censuré sur le cycle de Drenaille, je me contenterai de conseiller Renégat et l'Étoile du Matin, hein, de ce bon vieux David. Ce sont des valeurs sûres qui se lisent très bien, qui ne nécessitent pas de connaître le reste de l'œuvre. Les héros de Joe Abercrombie, que j'ai bien aimé aussi, dans le genre, qui lui se passe dans un, on va dire, un univers... général, mais ça nécessite pas du tout de le connaître parce que pour être d'autant plus transparent, je crois que c'est le seul Abercrombie que j'ai lu. Donc,
voilà, ça a fonctionné.
Voilà, je ne peux pas m'empêcher de citer ce magnifique ouvrage qu'est le prix Elbakin.net de 2022 du roman français, Le Chant des Géants de David Brie. Voilà.
Tout à fait.
C'est comme ça, en y pensant, c'est peut-être le seul bouquin qui me ferait réfléchir mon point de vue général sur les one shots. C'est-à-dire que quand on me l'a proposé en chronique quand on était à Trois Légendes. On m'a dit, lis-le, c'est de la fantasy classique, tu vas bien aimer. On me l'a pas vendu en lisant, c'est un one-shot ou machin. Et c'est génial, voilà. Et il n'y a pas besoin de suite, surtout pas, monsieur Brie, s'il vous plaît.
Non, touchez
pas, touchez à rien.
Ça suffit.
C'est très bien comme c'est. Laissez-le à côté de votre trophée et ça ira très bien. Il y avait aussi, alors je le cite avant que Aka le fasse, la chanson d'Arbonne de Guy Gavrielke. Je crois que c'est le titre, ou une chanson pour Arbonne, je sais plus. Mais qui, voilà, vachement bien aussi, dans le genre, une histoire construite, qui a tout, en fait. Ça aurait pu être un cycle, ça pourrait être étiré sur des romans et des romans, mais voilà. Pour finir, Neverwhere de Neil Gaiman. Voilà. Et, sans exagérer, outre mesure, je pense que c'est là 80% des one-shots que j'ai lu de ma vie.
Tu vois que,
donc,
du coup, c'est un ratio,
C'est un ratio recommandation parce que à part le Chant des Géants, tous les autres, ce sont des lectures qui suivent des recommandations, soit du site, soit de discussion. C'est jamais spontanément, je vais dans une librairie et dire, eh, c'est un one shot, je vais le prendre. Jamais. Oh là là. Je préfère
temps,
dépenser mon argent.
Moi, ça m'arrive jamais de lire un truc sans qu'on me l'ait recommandé, soit par le site, soit en discussion. Il y a tellement de livres qu'on me recommande que j'ai pas le temps de en plus piocher au hasard.
Ah, jamais tu te laisses tenter par, oh, la couverture a l'air chouette, allez.
Ah non, j'ai pas.
C'est
pas
la crise, ma bonne dame.
Ouais. J'ai pas assez de temps de lecture pour avoir le temps de lire autre chose que ce qu'on me recommande déjà.
Ah bah, donc voilà, s'il fallait un argument de plus pour suivre le site, c'est celui-là.
Voilà. La recommandation de l'algorithme d'Amazon, ça compte parce que ça, c'est le mal quand même. Hein. T'achètes un truc, un one-shot en Kindle et après, on t'en recommande 38 derrière. Tu dis, non, mais j'ai pas le temps. C'est pas possible. Je peux pas.
D'autant plus si on est dans une mission de chronique pour le site, ça réduit déjà les choix personnels, on va dire.
Oui, mais
Ah,
C'est bien le problème. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup.
Des
bon,
plaintes, des plaintes.
mais non, pas des.
Des
Non,
plaintes.
c'est. Au contraire, ça permet de découvrir des choses. C'est peut-être, encore une fois, le quelque chose de très intéressant parce que petit message, on cherche toujours des chroniqueurs s'il y a des volontaires, hein, faut pas hésiter. Et ça permet aussi de sortir de. Alors je déteste cette expression de mec de droite, mais de sortir de sa zone de confort. C'est, faut pas sortir de sa zone de confort. Si c'est confortable, faut y rester. C'est bien. Mais voilà, c'est aussi un moyen de les chroniques ou simplement de se laisser tenter à l'aveuglette de découvrir des choses. Parce que je dérive un peu, mais vous avez jamais vu les librairies qui mettent des bouquins dans des enveloppes
Si, ouais.
avec
Ah, si,
juste
si, mais ça, jamais j'y
au
touche.
Noël, ouais.
juste un résumé. Alors j'avoue, pour l'instant, j'ai pas des expériences très satisfaisantes de ce genre de truc, mais ça peut être intéressant. Justement, dans cette idée de découvrir autre chose. Et ça peut vous amener à des styles littéraires.
Oui, mais imagine, tout roule en enveloppe et c'est un one shot. Ça va être décevant pour toi.
Je le mets dans la boîte à livres du lycée, il y a un gamin qui le prendra.
Le pire, tout l'enveloppe et c'est du Guillaume Musso, quoi. Non, mais attends,
Ah non, mais non.
t'imagines la
Dans une
catastrophe.
librairie spécialisée, là, je serais
Ah,
vraiment.
ok.
Attends, il y a plein
Je
d'histoires de fantômes dans ces bouquins. Donc, du coup,
veux pas savoir.
c'est
Ça ne
fantaisiste tes
m'intéresse pas.
bouquins,
Ni
hein.
lui, ni Amélie Nothomb, ni. J'ai même oublié comment il s'appelle, machin. Lévi, là, quoi. J'ai même oublié leur prénom, tu vois.
Marc.
Marc, voilà. Marc Lévy, je ne veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas.
Donc voilà, c'était des petites recommandations, alors qui n'ont rien de très original, parce que si vous allez voir sur le site, ils ont tous des bonnes notes, hein, voilà. Mais si vous êtes comme moi, un lecteur, on va dire, de cycles avant tout, voire de romans qui se passent tous dans le même univers, notamment les romans en licence. C'est des petits romans sympathiques qui vous êtes sûr de pas vous tromper en piochant dedans. Voilà. Et je dis pas ça parce que c'est ma sélection à moi.
Non, mais comme tu dis, elle recoupe aussi. Enfin, je pense
Alors,
qu'on
voilà, je crois qu'il n'y a pas en dessous d'un 7
a.
sur 10 sur les notes du site. Donc bon.
Ça va, c'est de la bonne.
Ouais,
Voilà.
globalement, je pense pas qu'on va renverser complètement, révolutionner le genre, en sortant des pépites, cachées,
Ça, personne ne l'a jamais
sous le
lu.
manteau.
Ouais.
Qui a d'autres qui veut enchaîner avec sa propre liste?
Allez, j'enchaîne. Je vais sortir tous les ouvrages de Guy Gabriel Kay déjà.
Cinq, six,
Donc non,
j'ai perdu le compte.
c'est quelque chose que je ne vais pas faire, mais lisez-les quand même, parce qu'ils sont tous bien, à peu près. Blague à part, moi j'ai quelques quand même. Gros nom, je pense que de Neil Gaiman, on a fait quelques-uns que je trouve vraiment très bons. Le premier, celui qui m'a le plus marqué, c'est Stardust. Je trouve que c'est clairement le prototype du one-shot qui fonctionne bien pour moi. C'est une bonne idée, un univers à exploiter, mais pas besoin d'y revenir. Le truc fonctionne bien, l'histoire se tient, et voilà, c'est juste bien, il n'y a rien. Rien à rajouter et justement, il n'y a pas de frustration à la fin, on a passé un très bon moment. Et bah, si tu as envie de repasser un très bon moment, tu le relis, mais voilà. Pas besoin de rajouter quelque chose. Ensuite, je dis tu le relis, mais on sait tous qu'on n'a pas le temps de relire des livres
C'est ça,
dans ce bas monde.
c'est quoi la relecture? Je ne sais même pas.
Bon, ça pourrait faire un bon sujet de podcast, ça.
Ouais, bon,
Ouais,
ouais.
ça m'étonne.
Il n'y en a pas beaucoup que j'ai relu, hein. Sinon, j'ai gagné la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Alors là aussi, on retombe dans un one-shot qui a un antécédent avec Jaya
Ouais.
Vera, qui a plus ou moins une suite avec Le Sentiment du Fer. Donc, est-ce que c'est vraiment un one-shot? Je ne sais pas, mais je pense que ça mérite d'être cité quand même.
Bah, juste tout seul, de toute façon, il suffit parfaitement à lui-même et il est
C'est ça.
excellent.
Ensuite,
Voilà.
soyons honnêtes, quand on a lu Jaya Vera avant, ça. On gagne quand même quelque chose.
D'ailleurs, c'est pas Gagner la guerre qui est sorti avant en premier? Non?
Non, c'est Jaya Vera.
C'est Genevieve?
Ouais. Bon, le Hobbit, c'était plus peut-être un peu
Non,
plus pour le troll, mais ça n'empêche.
on dit pas pour le troll, Aka, on dit pour faire plaisir à Foradad.
Hobbit, troll, c'est bien trouvé, bien trouvé.
Aussi,
Ouais, c'est ça.
Sinon, un peu plus récent en sortie française en tout cas, J'ai le Serpent Ouroboros qui a été publié aux éditions Kalidor, qui a été mon très très gros coup de cœur de ces éditions. Bon, c'est un gros one shot puisqu'il a d'abord été publié en deux tomes, mais la nouvelle réédition fait que ça passe en one shot. Je botte en touche.
Sûr que si on inclut les intégrales.
En plus léger et plus petit, quoi, pas forcément plus léger, mais en plus petit, parce que là, j'ai quand même parlé plutôt de gros tomes. J'ai le Chant d'Achille de Madeleine Miller, qui pour moi était un vrai coup de cœur. Je trouve que typiquement le côté historique avec des gros guillemets, c'est-à-dire que on prend quelque chose qu'on connaît, qui est connu, donc là en l'occurrence l'histoire d'Achille, et on le réécrit, bah, se prête très bien finalement au one shot, puisque on n'a pas besoin d'y revenir, puisqu'on connaît ce qui se passe après, on se connaît ce qui se passe avant, on connaît tout le cycle. Juste, ça donne son point de vue sur une histoire, et je trouve que ça se prête très très bien au one shot. Et le Chant d'Achille, c'est une superbe relecture de la guerre de Troie et de la vie d'Achille. Donc, je vous conseille grandement. Et je vais finir par deux qui me tiennent assez à cœur. Le premier, c'est Unlondon de China Mieville, qui pour moi est justement quelque part le contre-exemple de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que justement, c'est un livre où finalement c'est l'univers qui est absolument génial et qu'on aurait presque envie de revoir. Donc il y a cette frustration un petit peu qui dérange tant Gil Tanas, hein, mais que moi j'aime bien finalement. On a ce côté, ben voilà, on a un univers qui est complètement barré, avec de magnifiques girafes carnivores et absolument terrifiantes.
Tu le vends bien.
Et franchement, Unlondon, c'est absolument génial, quoi. Et on a envie d'y retourner, mais en même temps, on est bien de, voilà, juste de pouvoir imaginer ce qui se passe dedans, et juste, c'est top. Et mon dernier coup de cœur, quand même, qui a été longtemps ma marotte aussi sur le site, c'est Jonathan Strange and Mr. Norrell. Donc là, encore une fois, c'est pas du petit one shot, hein, c'est du 8 ou
Non.
900 pages. Et là, bah, tout est bien, une ambiance incroyable. Je trouve que c'est quelque chose, voilà, encore une fois, on n'a pas besoin d'y retourner. L'idée est bien, l'idée est bien amenée et bien travaillée. L'univers, ça se passe dans notre univers, donc on le connaît, mais en même temps, il est sérieusement remodelé. Mais voilà, quoi. Il y a une construction du livre autour de personnages, d'un nombre de personnages finis. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et la bonne idée est amenée jusqu'au bout. Ça se termine. Pas besoin de suite. Pas besoin de préquel. Tout est parfait. Voilà pour mes recommandations.
Ah, très bien. Pour ma part, bah, c'est vrai que j'aurais cité aussi bah, Neil Gaiman et China Mieville, parce que je trouve que les deux, bon, surtout Gaiman, hein, proposent quasiment finalement que des one shot, et tous sont vraiment, en général, enfin, moi j'aime beaucoup ces romans, que ce soit même Nobody Owens, etc. Enfin, on aurait pu en... je pense qu'on pouvait tous les citer, ou Le Roi des Rats chez Mieville. Moi, j'avais pensé aussi, bah, évidemment, je voulais citer La fille du roi des elfes, mais Gil Tanas m'a devancé. Et je cherchais du côté de Zelazny, avec dont je me souvenais que pas mal qu'on connaît pour les Princes d'Ambre, hein, mais je me souviens de L'Ordre des Démons, qui avait été réédité, bah, chez Folio SF, je crois, il y a déjà quelques années, qui se tenait, voilà, qui était un petit one shot sympathique, un peu de fantasy, on va dire urbaine plus ou moins, enfin qui se passe dans notre monde. Et j'avais trouvé ça très très cool. Je voulais aussi citer Apportez-moi la tête du prince charmant, mais j'ai découvert qu'en fait c'était le premier tome d'une trilogie. Donc bah, du coup, non, je ne peux pas le
Rappel.
citer, mais je le cite quand même. Mais voilà, moi je sais qu'il y a quelques auteurs, bah, notamment Gaiman, il y a quelques années, quand même enchaîné un sacré paquet de perles en très peu de temps. Et puis ben Kay, évidemment, hein, pour le citer une fois de plus dans ce podcast, les Lions d'Alrasan, moi c'est vraiment le voilà, on n'a même pas atteint les 10 citations, c'est quand même un peu pourri.
Non, ça fait 7, si je me suis pas
mais,
trompé.
Mais voilà, je pense que il y a déjà de quoi faire. Donc c'est pour ça que je préférais laisser la parole à mes petits camarades.
Alors pour moi, bah écoutez, pour ce qui est de Gaiman, plus 1, hein, j'ai envie de dire. Pour ce qui est de la fille du roi des elfes, plus 1 également. Je crois que c'était un peu une évidence depuis le début du podcast, j'ai envie de dire. Joe Walton, vous pouvez lire ce que vous voulez au niveau one-shot de Joe Walton, vous avez à peu près une certitude de qualité. Pour moi, ces deux derniers romans, donc Lent, qui pour autant que je sache n'a pas été traduit en français, et Où ce que vous voudrez, donc le tout dernier qui est sorti, début septembre, c'est les deux meilleures lectures de ces deux dernières années. Voilà, c'est pas compliqué. J'avais aussi absolument adoré Morwenna, donc ouais, allez-y les yeux fermés. Alors c'est des romans qui peuvent être un peu métaphysiques parfois. Par exemple, Où ce que vous voudrez, c'est le genre de bouquin qui vous fait douter de votre propre identité et de votre propre existence en tant que lecteur, donc c'est intéressant. Mais non, d'excellents romans, et Joe Walton est vraiment une grande spécialiste de ça. Il y a quelques années, j'avais aussi adoré The Glass Town Game, donc encore une fois, je ne suis pas sûre qu'il ait, enfin, je ne pense même pas d'ailleurs qu'il ait été traduit en français, de Catherine M. Valente. Non,
ouais,
non, trop niche pour ça. Donc c'est un roman qui suit l'enfance imaginaire, évidemment, des frères et sœurs Brontë. Donc, qui étaient des enfants avec une imagination absolument débordante. Et en faire de la fantaisie, c'était pas absurde, loin de là. Au contraire, le roman se tient totalement du début à la fin. Il y a quelques années également, on avait donné le prix Elbakin à Lude en brume de Hope Mirlis, donc chez Kalidor, qui est une petite merveille de fantaisie classique, on va dire, au même titre que La fille du roi des elfes, par exemple.
Ah, je l'ai oublié, Lune en brume, c'est moi qui l'ai chroniqué, je crois.
Eh ben voilà.
Oh la honte.
Écoute, non, celui-là, il est vraiment absolument
oui,
brillant.
Plus 3 pour Lune en brume.
Plus 3 carrément, allez, ah, dans le coup. Allez,
vendu.
Voilà, donc de la part de celui qui n'aime pas les one-shots, c'est bon, allez-y. S'il vous met plus 3, c'est bon.
Vendu.
Je suis une grande fan des séries de Sheenan McGuire, donc tout ce qui est Encrypted, October Day, etc. Par contre, elle a un one-shot absolument génial, à mon sens, et qui me semble a gagné un prix américain il y a quelques années. Je me demande même si ce n'est pas le Hugo ou quelque chose comme ça, qui est Middle Game. Je ne peux que vous le recommander. Et pareil, je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas sûre qu'il ait été traduit en français. Donc ça, c'est pour les lecteurs anglais. Un roman que j'ai lu qui est entièrement de la faute de Gilles Hossein, c'est Legends and Lattes de Travis Baldry. Alors ça, tout à l'heure, je parlais de trous normands. Mais alors ça, c'est le trou normand ultime. C'est-à-dire, c'est la lecture super agréable en one-shot qui nécessite absolument aucune activation du cerveau. Voilà, c'est autant les Joe Walton, les Lude en brume, les Valente, les Middle Game, mine de rien, OK, faut quand même réfléchir 4 secondes. Voilà, c'est... Mais par contre, les Jumps and Lattes, non, quoi. C'est juste l'histoire d'une orque, si je me souviens, qui a juste envie d'ouvrir un coffee shop. Voilà, fin de l'histoire.
Je me demande s'il n'y aura pas un tome 2. Mais...
C'est possible, du coup c'est possible, mais pour l'instant, pour autant que je sache, il y a...
Ah oui, non, pour l'instant,
voilà.
Parce que...
Il n'y a qu'un shot, voilà, c'est
oui.
Shot de café, c'est tout ça, voilà. Il est tard, toutes mes excuses.
Parce que je viens de regarder pour Middle Game, en regardant s'il a gagné un prix, apparemment il y a un pseudo tome 2 qui est sorti là cette année.
What? Ah, j'étais pas au courant. Oh non.
Voilà, ben voilà, ça casse tout s'effondre.
Voilà, tout s'effondre, exactement. Mais écoutez, de toute façon, vous n'avez pas besoin de lire de suite. Voilà, si vous avez envie de vous en tenir à Middle Game, qui est absolument excellent en lui-même, il n'y a pas de problème. Legends and Lattes, pareil, effectivement, qui pourrait appeler une suite, pourquoi pas, mais il est tout à fait indépendant, tout à fait contenu en un tome. Voilà, il est. Et encore une fois, dans la série, j'ai vraiment pas besoin de me poser de questions. C'est parfait. Du côté français, Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vukicevic, à qui on a donné le prix Elbakin l'an dernier. Très bien aussi dans la catégorie vraiment roman indépendant. qui n'appelle absolument pas de suite. Et je pense que, si j'ai bien compris, son roman suivant est dans le même genre, donc c'est-à-dire one shot, voilà. Et puis là, pas plus tard que cet après-midi, je viens de finir Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, donc qui est paru chez
Gilles.
Argile, si je ne dis pas de bêtises, hein, voilà, merci Gilo, et que je recommande chaudement, même en étant quelqu'un qui n'a aucune foi en l'humanité et qui est convaincu que les beaux préceptes du bouquin n'ont pas la moindre chance de fonctionner dans la vraie vie, parce qu'il suffit d'avoir croisé plus de 3 êtres humains dans son existence pour savoir que l'autodétermination des gens, je ne parle pas des pays, hein, je parle des gens en eux-mêmes, hein, donc l'absence de gouvernement, bref, l'anarchie, non, ce n'est pas possible. Hein, voilà. Mais ça fait plaisir à lire, parce que ça marche vachement bien, et voilà. Le roman est très intéressant, c'est de la fantaisie sans magie, en fait. Voilà, c'est tout simplement de la
Oui.
fantaisie dans un univers complètement différent du nôtre, mais avec pas la moindre once de magie. Donc voilà, ça pourrait être une guerre une histoire de colonialisme quelconque dans notre univers, mais non. Voilà, c'est juste. Puis ça fait 200 pages, donc c'est pas. Donc on est loin des 800 ou 900 pages du Jonathan Strange et Mister Norrell. Hein, donc, voilà. Et si on en revient à la base, j'ai envie de dire Dracula et Frankenstein en tant que one shot, c'est plutôt pas mal non plus. Hein.
Oui, ça se pose là.
Ça se pose là, hein, c'est un peu quand même.
J'en ai entendu parler, je crois.
Ouais, hein, c'est plutôt pas mal. Je crois qu'il y a eu pas mal de ressucés derrière. Ah, ressucés, Dracula, lol. Bref, encore une fois, il est
On
de
est
ça.
fort ce soir, quand
On est, non, mais en fait,
même.
c'est le problème d'enregistrer le soir, si vous voulez, c'est que là, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà. Et puis dans la catégorie Uchronie, allez, on va pas dire SF, parce que j'ai vraiment envie de le citer quand même. Mais Uchronie, lisez 1984, quoi. Parce que voilà, c'est. On n'en dira pas plus. 1984, George Orwell, voilà.
Je pense que si avec tout ça, vous ressortez de l'écoute du podcast sans avoir augmenté votre liste de livres à acheter, c'est que on a raté quelque chose quand même.
Je pense qu'il
Il
va
y aura un
falloir faire
petit
une
souci quand
liste.
même.
Il va vraiment falloir reprendre notre plan du podcast et faire une liste parce que sinon les gens vont pas avoir le temps de noter là.
Ah oui.
Et je m'en voudrais d'empêcher qui que ce soit d'être en conflit avec son banquier pour cause de trop d'achats à la librairie. Donc voilà.
Envoyer la facture à elbacking.net.
C'est ça.
Non, peut-être pas, mais.
C'est l'asso qui paye.
Où est le trésorier?
Ah, c'est pas moi. Donc ça va. Bon, ben, je crois qu'effectivement, on vous a quand même gratifié d'une belle série de références en tout genre, hein, de tous les styles, de toutes les tailles. Pour ce mois de l'imaginaire, y a de quoi faire. C'est déjà le moment de vous quitter. Donc merci à tous et tous de nous avoir écoutés, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, on va vous promettre d'essayer de revenir plus régulièrement. Et je ne vais pas dire que comme d'habitude, on va
On n'y
rater une
arrivera
coche,
pas, mais
mais
on y croit.
mais voilà, on va essayer d'être optimiste. C'est vrai que là,
On a
bon,
plein d'idées de sujets. C'est déjà bien.
oui, et puis là, pour sans rentrer dans les coulisses, on a quand même des petits soucis techniques ce soir même qui nous ont fait prendre du retard. Donc c'est pas toujours de notre faute, mais un peu quand même. La plupart du temps, mais voilà. Donc, en tout cas, on espère pouvoir vous donner un rendez-vous de façon plus régulière. Mais en tout cas, sachez que le podcast est toujours là et qu'on va essayer d'atteindre quand même au moins la barre des 100 numéros de la formule classique du podcast, on va dire. Parce qu'après, vous connaissez les dérivés métal, jeux vidéo, très rarement manga, etc., etc. Donc, en tout cas, à la prochaine et puis surtout, lisez bien.
Salut à tous!
Bonne soirée.
Bonsoir, bonne lecture.
Enough, ready. À moi, l'aventurière qui doit sauver le monde.